Et vous, vous vous souvenez la première fois où vous avez entendu parler d'astéroïdes ? D'ailleurs, on dit un ou une astéroïde. Bon, j'ai vérifié, c'est masculin. Dans mon souvenir, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'astéroïde B612, la planète du Petit Prince, le roman de Saint-Exupéry, sur laquelle il a laissé 3 volcans et une rose. Je crois que je m'égare, ce podcast s'intéresse avant tout à l'actualité. Et en matière d'astéroïdes, l'info est là. OSIRIS-REx, la sonde de la NASA lancée en 2016, a renvoyé sur Terre, le 24 septembre 2023, une capsule. Dans ses bagages, un cadeau très précieux, des échantillons de l'astéroïde Bennu. À l'heure des technologies spatiales très développées, ça ne vous paraît peut-être pas extraordinaire. Mais en fait, ça l'est, m'a dit Simon Rosé, le journaliste de RFI que vous allez entendre dans cet épisode. C'est vrai qu'à force de voir des astronautes partir dans l'espace, des robots se poser sur la Lune et Mars, on peut avoir du mal à concevoir que l'on ne soit pas déjà en possession de poussière d'astéroïdes. En fait, on en a déjà récolté, mais sur Terre et pas directement dans l'espace. Car quand un astéroïde s'écrase sur notre planète, on appelle ça une météorite et plusieurs tombent chaque année. Pour l'instant, il n'y a que l'agence spatiale japonaise qui s'appelle JAXA qui est parvenue à ramener des morceaux d'astéroïdes de l'espace. C'était en 2020, les échantillons provenaient de l'astéroïde Ryugu. Ah, au fait, un astéroïde, c'est un petit corps rocheux ou métallique du système solaire. Il gravite principalement entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Bonjour Simon.
Bonjour Alexandra.
En travaillant un peu avant de venir te voir avec mes questions, j'ai lu qu'on avait répertorié dans le système solaire un peu plus d'un million d'astéroïdes, que l'on en connaît presque 600, ça fait pas mal. Pourquoi la NASA a choisi de prélever des échantillons spécifiquement sur cet astéroïde Bennu ?
Parce qu'il était accessible, il était à portée de fusée, comme on peut le dire. Et il est également intéressant puisque c'est ce qu'on appelle un géocroiseur. C'est un géocroiseur la Terre, croiseur, il va croiser l'orbite de la Terre. Donc il fait partie de ces astéroïdes qu'on surveille, puisqu'ils ont un potentiel risque d'impact à horizon plus ou moins lointain. Bennu, c'est 2162, donc c'est pas tout de suite, mais c'est pas non plus dans 500 ans ou dans 1000 ans. Donc c'est intéressant de le connaître si jamais un jour ce risque se concrétisait de collision avec la Terre. On sait qu'il va passer près, on ne sait pas s'il va vraiment taper, mais en tout cas on se prépare.
Quand tu dis il n'est pas trop loin, c'est en termes de kilomètres, ça fait quoi ?
On compte en millions de kilomètres, en centaines de millions de kilomètres.
Alors tu vas me raconter évidemment comment s'est passée cette mission, surtout à quoi va servir cette poussière qui a été récoltée. Je veux bien qu'on remonte dans le temps, 7 ans. Nous sommes en 2016, le 8 septembre, en Floride.
Cap Canaveral, le KSC, le Kennedy Space Center. La fusée Atlas V décolle avec donc cette sonde OSIRIS-REx qui est à bord, à destination de Bennu. Donc c'est le début de cette mission qui va constituer d'abord, la fusée va lâcher la sonde dans l'espace, qui va se diriger vers Bennu. Ensuite, elle s'est mise en orbite autour de Bennu, le temps qu'il le cartographie, qu'il l'étudie un peu, et surtout qu'il sélectionne un site où il n'y a pas trop de cailloux, où c'est pas trop dangereux pour que la sonde s'approche, touche Bennu, lève un petit nuage de poussière, en aspire, et ensuite se remet en orbite et revient vers la Terre pour nous larguer la capsule qui contient les échantillons, comme elle l'a fait il y a quelques semaines maintenant.
La sonde, elle ressemble à quoi ? C'est un robot ?
Non, c'est une sonde, donc elle n'a pas de roue, elle ne se pose pas. Ils ont touché, ils sont repartis. C'est un satellite, comme on peut l'imaginer, avec ses panneaux solaires, sauf qu'il y a cette espèce de petite trompe qui s'est déployée. Quand la sonde s'est approchée, hop, déployer la trompe, ça fait un petit coup sur l'astéroïde, vu qu'il n'y a pas de gravité, ça a levé plein de poussière, ça a aspiré, et ensuite toute la matière a été scellée hermétiquement dans un récipient au sein même du satellite.
Bennu, pour OSIRIS-REx, c'était l'unique objectif, elle a filé direct sur l'astéroïde.
Pour cette partie de la mission, oui. Maintenant qu'OSIRIS-REx a lâché sa capsule, la sonde à proprement parler, elle a continué à filer dans l'espace. Ça s'est vraiment séparé de son trésor, qui est retombé sur Terre, qu'on a récupéré, mais la sonde elle-même continue dans l'espace, et là elle vise un autre astéroïde qui s'appelle Apophis, qu'elle atteindra à la fin des années 2020. Et à cette occasion, la mission change de nom, elle ne s'appellera plus OSIRIS-REx, mais OSIRIS-APEX, pour étudier donc Apophis, qui lui est également un géocroiseur, donc un astéroïde qui risque de croiser l'orbite de la Terre un jour, un peu plus méchant si mes souvenirs sont exacts que Bennu, donc arrivé prévu, oui, comme je te le disais, à la fin de la décennie.
Prélever cette poussière d'astéroïdes, c'est une technologie extrêmement compliquée.
Oui, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il faut aller là-bas, qu'on est loin de la Terre, donc tu peux pas communiquer en direct avec ta sonde, donc tout doit se faire en automatique, donc tu dois répéter. Osiris, c'est vrai que ça passait pas mal de temps en orbite autour de Bennu pour répéter les procédures, faire des simulations du prélèvement. Et il faut s'assurer que tout fonctionne parce que, encore une fois, c'est automatique. Et que bah, tu as bien aspiré, qu'il y a bien du matériel issu de l'astéroïde qui est rentré dans ta sonde, qui a bien été scellé comme il faut. Donc ça, déjà, c'est compliqué. Et après, tu as toute la phase de retour. Comme je t'ai dit, donc Osiris Rex a quitté Bennu, est revenu vers la Terre et elle a lâché cette cargaison qui a dû rentrer dans l'atmosphère à une vitesse folle. À chaque fois qu'il y a une rentrée atmosphérique, on passe du vide de l'espace à l'atmosphère, donc ça frotte, ça chauffe, il y a des flammes, et ensuite il y a des parachutes qui se déploient, et ça se pose au sol, à un endroit qu'on a grosso modo choisi. Mais le choc est quand même violent, donc il faut que ta capsule qui contient tes échantillons reste hermétiquement scellée. C'est ça la grande différence entre aller chercher des fragments d'astéroïdes in situ dans l'espace et ceux qui sont sur Terre, les météorites dont tu parlais, c'est que sur Terre, dès qu'ils touchent le sol de la Terre, ils sont contaminés par ce qu'on trouve sur la Terre. La chimie terrestre, les organismes terrestres, il y a tout de suite des bactéries qui vont dessus. Là, on veut vraiment que ça reste dans les conditions dans lesquelles ça se trouve dans l'espace, donc on est vraiment dans une capsule qui est fermée hermétiquement, et malgré toute cette rentrée atmosphérique, ce choc au moment où ça atterrit, bah, il faut que ça tienne le coup. Donc c'est tout ce travail-là qui est compliqué à mettre en place, qui est le plus dur à faire en fait.
Parce que la contamination, si je comprends bien, en fait, elle peut aussi perturber l'analyse future de ces échantillons.
C'est exactement ça. Si ton échantillon est contaminé, comment est-ce que tu peux dire que ce que tu as trouvé, ça vient de l'astéroïde ou c'est une contamination terrestre ? Tu peux pas. Il y a une analogie. Par exemple, avec tout ce qu'on envoie sur Mars, tous les robots qu'on envoie sur Mars qui cherchent des marqueurs biologiques ou de chimie biologique, si on les décontamine pas avant qu'ils partent sur Mars et qu'ils embarquent avec eux trois bactéries terrestres. Trois bactéries, c'est rien, mais les outils qui sont à bord sont tellement puissants qu'ils les détecteront. Il est sur Mars, il dit « Ah, j'ai trouvé une bactérie ». Et si t'es pas sûr que c'est propre, comment tu sais que c'est bien martien ou que ça vient de la Terre ? Tu ne peux pas. Donc ce travail vraiment d'éviter toute contamination est crucial si tu veux faire de la bonne science derrière.
Et là, donc, tout s'est bien passé.
Même mieux que ça, parce qu'ils comptaient repartir avec quelques dizaines de grammes. Et en fait, ils en ont pris 250. Ils en ont pris tellement qu'en fait, ça a débordé. Le compartiment était plein. Il y en a même à l'extérieur qui est resté et qui est revenu sur Terre avec. Donc, ils sont très contents, à tel point que ça leur a fait prendre du retard. Parce qu'au moment où la capsule est arrivée, elle a été prise en charge par des moyens militaires qui l'ont amenée au centre Johnson de la NASA, dont on étudie tout ça, à Houston, où des salles blanches, donc très, très propres, ont été conçues exprès. Et ils devaient mettre une grosse semaine pour ouvrir tranquillement la capsule qui contient les échantillons pour pouvoir commencer à travailler dessus. Et en fait, vu qu'il y avait de la matière en surplus qui dépassait, bah, ils ont eu un problème de riche, ça les a retardés. Donc la NASA a pris un peu de retard, mais pour la bonne cause, pour le coup.
L'analyse, elle sert à quoi ? Est-ce qu'on sait ce qu'on cherche ou on part totalement dans l'inconnu ?
Alors toute la question, c'est pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on espère en retirer ? Les astéroïdes, c'est intéressant, ils se sont formés en même temps que le système solaire, en même temps que les planètes, en même temps que la Terre, Mars, toutes les planètes rocheuses. Et depuis, ils sont restés dans l'espace. Ce qui veut dire qu'ils n'ont quasiment pas bougé. Donc si tu vas les étudier, tu regardes de quoi est faite leur roche, tu comprends de quoi a été fait le système solaire. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir le plus de données sur la naissance du système solaire, parce que notre système solaire a une particularité, c'est qu'il abrite la vie. À notre connaissance, c'est le seul. Alors, est-ce qu'il est unique, et auquel cas, ça tient à sa formation, ou au contraire, est-ce qu'il est banal ? Donc, comprendre comment il s'est formé, c'est assez intéressant déjà, pour voir en quoi notre système solaire est particulier ou pas. Ensuite, les astéroïdes ont joué un rôle, ça on le sait, sur le fait qu'il y ait de l'eau sur la Terre. Parce que la Terre, au début de sa formation, tu imagines une grosse boule de magma, de lave, et donc toute l'eau qu'il y avait a été complètement vaporisée. Et l'eau, après, il a bien fallu qu'elle revienne. Or, on sait que les astéroïdes contiennent de l'eau. Et on a une période du système solaire qui est encore jeune, qui est encore turbulent. Donc, il y a eu plusieurs bombardements massifs d'astéroïdes sur tous les corps du système solaire, notamment la Terre. Et les astéroïdes contenant de l'eau, on sait aujourd'hui que l'eau qui est sur Terre, en fait, vient de l'espace. Se pose une deuxième chose, on sait également que dans l'espace, t'as des, quand j'ai utilisé un nom barbare, je m'en excuse, des macromolécules organiques, des grosses molécules qui contiennent du carbone. Ce sont les briques utilisées par le vivant pour faire des acides aminés, bref, tous les trucs dont ont besoin nos cellules, dont a besoin la vie. Les briques se trouvent dans les astéroïdes. Et donc, l'idée, c'est, puisque l'eau est arrivée avec les astéroïdes, pourquoi pas les briques ? Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de regarder. On a déjà étudié des astéroïdes, il y a déjà eu des retours d'échantillons, notamment par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, avec la mission Hayabusa 2, sauf que là, ils avaient rapporté vraiment que quelques grammes, là, on en a 250. Mais sur Ryugu, donc la cible d'Hayabusa 2, on a trouvé, par exemple, une base de l'ARN, l'uracile. Un truc important. On sait que dans l'espace, spontanément, ces grosses molécules avec du carbone peuvent se former. Donc, bah voilà, maintenant, on essaie de discriminer. Est-ce que ce matériel, il vient de l'espace ou est-ce qu'il est apparu sur Terre? Voilà. Donc, c'est pour répondre à ce genre de questions qu'on monte ces missions, en fait.
Si je résume, O plus carbone, ça fait obligatoirement de la vie. C'est la recherche obsessionnelle de savoir si on est tout seul ou je
on
suis
dit...
complètement loin de tout ça.
Non, mais la question se pose. On cherche ce qu'on connaît. Donc une vie basée sur le carbone, comme sur Terre. Mais pour ça, il faut effectivement du carbone. Il faut de l'eau, puisque c'est un très bon solvant. Donc les molécules, elles peuvent se déplacer, se coller et tout ça. Il faut de l'énergie. Il y a plein d'endroits où on sait qu'il y a les trois. Par exemple, les lunes glacées de Jupiter. On a fait une émission là-dessus, donc j'imagine que tu la mettras en lien, où il y a de l'eau, du carbone et de l'énergie. Donc ce sont des conditions nécessaires. Sont-elles suffisantes? C'est toute la question.
C'est toute la question.
C'est toute la question. Et là, aujourd'hui, on n'a pas la réponse.
Tu m'as dit, on cherche ce qu'on connaît. Est-ce qu'on a des chances de trouver quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, enfin, qu'on n'a pas cherché spécifiquement?
On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Après, bon, les astéroïdes, on commence à bien les connaître. D'ailleurs, dans les analyses préliminaires dont la NASA vient d'annoncer les résultats, qu'est-ce qu'on a trouvé sur Bennu dans les échantillons? Du carbone et de l'eau. On s'y attendait. Après, ça va être plus à la marge. C'est sur les abondances. Il y en a 30% où on peut avoir des surprises, où il y en a plus que ce qu'on attendait, ce genre de choses. Fondamentalement, après, bon, les molécules, on les connaît, les constituants du système solaire, on les connaît. Donc, certes, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais grosso modo, on sait un peu à quoi s'attendre.
L'analyse, elle va prendre beaucoup de temps ou pas?
Des siècles. Et oui, c'est ça qui est bien. Non, mais volontairement.
Vous ne me voyez pas, mais j'ai fait des grands yeux.
Non, mais volontairement, c'est dans le plan de la NASA. Sur ces 250 grammes rapportés, grosse majorité ne va pas être étudiée maintenant. Elle va volontairement être mise de côté pour les laisser pour les générations futures quand elles disposeront de meilleurs instruments d'analyse qu'aujourd'hui. Ce qui est assez chouette, en plus, dans la philosophie, dans cette foi en l'avenir. Donc oui, non, il y a des générations de thésards qui vont travailler sur Osiris Rex et sur Bennu. Ouais.
Il y a d'autres missions, Simon, du même type qui sont en cours ou qui sont prévues?
Alors, retour d'échantillons, pas à ma connaissance, là, brûle pour point, je peux pas te les dire. Cela dit, vers des astéroïdes, oui. C'est marrant parce que c'est un champ en ce moment qui se développe beaucoup. Il y a eu Hayabusa 2, Osiris Rex, il y a eu DART, dont on a pas mal parlé il y a pas longtemps, où le but c'était de envoyer un projectile sur un astéroïde pour le dévier, pour là, cette fois, faire de la protection planétaire, un peu comme je t'évoquais tout à l'heure, en cas de collision avec la Terre, voir si on peut dévier des astéroïdes. Et là, aujourd'hui, au moment où on enregistre, doit partir dans quelques heures Psyché, qui est une autre sonde de la NASA qui va étudier l'astéroïde éponyme, Psyché, qui lui est super intéressant parce que pour le coup, c'est pas du carbone et de la glace, c'est du métal.
Psyché a bien décollé comme prévu du centre spatial Kennedy en Floride grâce à une fusée Falcon de SpaceX.
L'idée de Psyché, c'est que, en gros, le métal, on le trouve aujourd'hui principalement dans les noyaux planétaires. Le centre de la Terre est fait avec du métal en fusion. Le centre de Mars, de Vénus, de Mercure. Et Psyché, en fait, serait un embryon de planète qui a pu constituer son cœur en métal et qui ensuite, dans cette période de grand bombardement dont je te parlais, sa croûte, son enveloppe a été complètement soufflée, n'en resterait plus que le cœur. Et bah, c'est ce qu'on va aller voir, pour voir si cette théorie est bien. Et si, effectivement, c'est le cas, on aurait... sous nos yeux, je grossis le trait, un cœur de planète, qu'on ne peut pas étudier par définition, parce que tu as des milliers de kilomètres de roches sur Terre. La seule façon qu'on a sur Terre d'étudier le centre de la Terre, c'est par les ondes sismiques, mais on n'aura jamais un accès direct au centre de la Terre. Bah là, potentiellement, on peut avoir un cœur de planète sous nos yeux qui dérive dans l'espace.
Et ça, j'imagine bien que la réponse, on ne l'aura pas tout de suite. En général, les missions sont assez longues.
Elles sont longues et surtout, ce qui est bien avec l'espace et la science, c'est que les réponses amènent plus de questions. Et donc, du coup, ça fait d'autres missions. Ça me donnera l'occasion de revenir en parler avec toi.
Avec plaisir. Merci Simon d'être passé de nouveau chez moi. Je vous renvoie également à l'entretien réalisé par Simon Rosé avec Patrick Michel, qui est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Il est aussi membre de l'équipe de la mission Osiris Rex. Je vous ai mis le lien dans la page du podcast de Témoins d'Actu. À très vite.